donc essayer de voir qu'est-ce que c'est que la vertu? Je vous ai rappelé la dernière fois. C'est ce pli qu'on appelle exis en grec, l'habitus. Ce pli qui se prend de l'intérieur, à la différence d'une méthode, qui se prend de l'extérieur, quelque chose qui se prend de l'intérieur, qui vient valoriser de l'intérieur nos puissances. Qui vient de l'intérieur les orienter. Orienter nos puissances et leur permettre d'atteindre avec plus de facilité ce pourquoi elles sont faites. Alors pourquoi il y a cette nécessité de cette acquisition d'habitus, de vertu? C'est d'une part que nos puissances, comme tout notre être humain, implique une croissance. Nous sommes des êtres qui ont besoin de grandir, non seulement au niveau de la vie végétative, mais au niveau de la vie spirituelle, de la vie intellectuelle et de la vie affective. Notre intelligence est au point de départ totalement indéterminée. Et notre volonté, par le fait même, puisqu'elle suit l'intelligence, elle-même implique cette indétermination. Il faut donc que notre intelligence, progressivement, se détermine. Au sens strict, comprenons bien, il suffit pour la détermination de l'objet et de l'intelligence. Puisque ces plis de l'intelligence, ces habitus, s'acquièrent grâce à nos opérations. Autrement dit, l'homme est capable, tout de suite, avant d'avoir des vertus, de poser des actes bons, des actes honnêtes, des actes qui sont moralement bons. Et la vertu va naître de ses actes. On va dire que c'est la vertu qui rend nos actes bons. Ce sont nos actes bons qui sont antérieurs à la vertu. C'est pour ça que c'est très important, vous voyez, au point de vue philosophique, de bien comprendre que la philosophie morale n'est pas une philosophie de la vertu. C'est une philosophie de l'acte humain. Et cet acte humain est source d'acquisition de certaines déterminations qu'on appellera des habitudes, qu'on appellera des vertus. Naturellement, l'homme est capable de poser ses actes bons, de poser ses actes volontaires qui sont bons. Mais comme il y a croissance, et que cette croissance se fait dans la lutte, étant donné qu'il y a un poids vers le sensible, aussi bien du côté affectif que du côté sensation, qui risque d'empêcher la croissance de se faire, qui risque de l'arrêter. Et c'est pour ça qu'il faut, comme un surcroît d'énergie à l'intérieur de l'intelligence et de la volonté, pour que nos actes humains soient bien orientés. Et je crois qu'on peut donner cette double raison, la raison de la croissance et la raison de la lutte. Alors il faudrait se demander si la raison de la croissance suffirait. Si de fait il n'y avait pas de lutte, est-ce que la simple croissance au niveau de l'intelligence pratique Et au niveau de la volonté, suffirait à légitimer l'acquisition des vertus. Ce que je crois. La croissance suffirait à dire qu'il est nécessaire d'acquérir ces plis intérieurs qui viendraient nous aider à aller plus vite. C'est comme une exigence, si vous voulez, de la finalité. Il faut atteindre la fin le plus parfaitement possible. C'est une exigence de l'amour, au fond. Parce que la finalité, elle provient d'un premier amour à l'égard du bien. Et c'est donc ce premier amour qui exigerait que cette croissance se fasse de manière telle qu'il y ait acquisition de la vertu. C'est difficile à bien préciser, mais je crois qu'on peut le dire. C'est l'exigence de l'amour, oui, qui exigerait de fait qu'il y ait cette souplesse plus grande dans la croissance de l'intelligence et de la volonté. Mais la raison la plus manifeste, je ne dis pas la première, mais la plus manifeste, c'est la lutte. C'est à cause des excroissances imaginaires. Ce sont les excroissances imaginaires qui nous font comprendre la nécessité immédiate de l'acquisition des vertus. Excroissance du côté de l'intelligence, excroissance du côté des passions, du côté affectif. Et qui font qu'à ce moment-là, on sent très bien que s'il n'y avait pas ces vertus, on se laisserait emporter. Puisque même quand il y a des vertus, on peut encore se laisser emporter. Quand nos vertus ne sont pas encore très très fortes, hein, quand nos vertus sont encore à l'état embryonnaire, nous sentons bien qu'on peut se laisser emporter par l'imaginaire et donc ne pas être suffisamment de sang-froid. Alors on est de sang-chaud. Et quand on est de sang chaud, c'est la passion et c'est l'imaginaire. On n'est pas assez, si vous voulez, notre volonté n'est pas assez domina actus sui. Notre volonté ne domine pas assez. Et notre intelligence n'a pas suffisamment de recul pour maintenir une objectivité suffisante. On se laisse emporter. Et cela, on le sent bien. Ça fait partie de l'expérience que nous faisons quotidiennement, qu'on se laisse prendre parce qu'on a un tempérament très vif. Alors on se précipite. On a l'intention de faire quelque chose et puis il y a quelqu'un qui vient à la dernière minute nous dire l'inverse. On n'est pas de bonne humeur. C'est un manque d'humanité, de mauvaise humeur. Non, c'est un manque d'intelligence. Si on était très intelligent, on ne serait jamais de mauvaise humeur. Parce qu'on verrait très bien que la mauvaise humeur, ça ne sert à rien. Alors, si on est intelligent, on supprime tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est un poids. Alors, on comprendrait qu'il faut maintenir cette lumière intérieure de l'intelligence pratique pour vraiment continuer sa vie. Alors, on voit très bien comment cette lutte, interne, incessante, va exiger de nous les vertus. Je crois que c'est suffisant, hein, vous avoir montré suffisamment la nécessité de cette apparition d'habitus. C'est très beau à regarder. Hein. Ceux qui veulent avoir une longue spéculation sur les habitus n'ont qu'à regarder dans Jean de Saint Thomas, dans son Cursus Theologicus, et puis dans son Cursus Philosophicus, sur le point de vue de l'habitus. Je crois que c'est lui qui en a parlé de la manière la plus intelligente. Parce que saint Thomas ne développe pas beaucoup. Et là, il y a un très gros développement, et très beau développement, pour montrer comment l'habitus, l'exis, de l'intérieur, ennoblit nos puissances. Et fait que nos puissances, alors, deviennent parfaitement humaines. Autrement dit, c'est l'auto-éducation. Une éducation, ça consiste à faire acquérir les vertus. Et un enseignement, ça consiste à faire acquérir des habitus. Je ne peux pas vous rendre plus intelligent que vous n'êtes par nature. Il n'y a que Dieu qui peut augmenter votre capital intellectuel. Mais on peut aider à avoir des bons plis intellectuels. On peut indiquer des raccourcis. On peut indiquer des déterminations qui vont vers la vérité. Mais on ne peut pas augmenter votre intelligence. On peut faire tomber des obstacles qui arrêtent, qui empêchent de voir clair. Oui, ça oui. Donc on peut enlever les a priori. Mais on ne peut pas rendre plus intelligent. Et c'était ce vieux professeur dominicain qui disait toujours, je peux bien vous montrer l'intelligible, mais je ne peux pas vous donner l'intelligence. Donc c'est vous qui devez comprendre. Et c'est vous qui devez faire cet effort de comprendre. Alors on vous donne l'intelligible pour que vous puissiez le recevoir et vous alimenter spirituellement, intellectuellement. Vous voyez ? Quand on offre l'intelligible, on offre le beefsteak, on offre les légumes, on offre ce qu'on peut se nourrir, on se nourrit de cela. Et alors, à ce moment-là, notre intelligence croît, elle grandit, et en grandissant, elle prend des prix. On acquiert des habitus intellectuels. Il y a un habitus de philosophie. Ça met du temps. Ça met beaucoup plus longtemps à acquérir que l'habitus mathématique. Beaucoup plus longtemps. Mais ça s'acquiert quand même progressivement. Ça s'acquiert en luttant. Donc il y a une reprise constante au point de vue intellectuel qu'on doit faire. Et on acquiert de même des habitus vertueux. Et ça met du temps. Oui, le noviciat n'a pas d'autre but que de vous faire acquérir des habitudes vertueux. Parce que quand on entre au noviciat, on n'a pas beaucoup d'habitudes vertueux. Même si on appartient à une famille très chrétienne, on n'a pas beaucoup d'habitudes très vertueux, de vertu. Aujourd'hui, avant c'était différent. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. C'est que c'est des choses très rares, les vertus. Il le faut, c'est nécessaire. La vie commune n'a pas d'autre but que ça, acquérir des vertus. Acquérir des vertus, une souplesse affective qui nous permet de dominer notre imaginaire, de dominer nos passions et d'arriver à avoir un regard lucide et limpide. Bon, alors, entrons maintenant, après avoir rappelé ce que c'était que la vertu et la nécessité de la vertu et comment la vertu s'acquiert, nous allons maintenant regarder les vertus fondamentales. Donc celles qui sont absolument nécessaires. Il y a des tas de petites vertus secondaires. C'est intéressant du reste de regarder ça dans l'analyse que fait saint Thomas en théologien. Et saint Thomas aime de regarder toutes les vertus multiples. Vous pouvez très bien vous faire un arbre généalogique des vertus, selon saint Thomas. Et vous verrez que c'est très multiple et très divers. Il y a des tas de vertus auxquelles vous n'avez jamais pensé. Ça, j'en suis sûr. Et que vous trouverez dans saint Thomas, prédicté. Et là, vous ferez vite un acte de ces vertus pour quand même acquérir un tout petit prix, pour savoir ce que c'est. Parce que la vertu s'acquiert de l'intérieur. Celui qui n'a aucune vertu ne peut pas comprendre ce que c'est. C'est pour ça qu'Aristote dit que l'éthique, ça ne s'enseigne pas aux jeunes. Les mathématiques, oui, mais pas l'éthique. Parce que les jeunes sont beaucoup trop passionnés pour comprendre ce que c'est que l'éthique et les vertus. Alors, je crois que la grâce chrétienne mûrit très vite notre volonté, mûrit notre intelligence, et fait que, de fait, nous acquérons plus vite les vertus. Mais c'est quand même quelque chose qui s'acquiert lentement. Bien, je crois que la première vertu que nous devons regarder, qui d'une certaine manière, parmi les vertus morales, est la plus belle, la sagesse pratique, qui est la prudence. Sauf reçu la phronesis. La phronesis, c'est la prudence. Sagesse pratique. Et directement en liaison avec la prudence, nous verrons la justice, puis nous verrons la force et la tempérance, ce qu'on appelle les vertus cardinales. Et on les appelle les vertus cardinales parce qu'elles sont les gonds. sur lequel toutes les autres vertus vont pouvoir s'appuyer. Et c'est de cette manière-là que les quatre vertus cardinales nous donnent notre personnalité morale. Si on veut comprendre ce que c'est que la personnalité morale de quelqu'un, on n'a qu'à regarder sa prudence, sa justice, sa force, sa tempérance. C'est ce qui constitue en nous, voyez, notre personnalité morale. Nous n'avons pas de personnalité morale sans ses vertus. Celui qui n'a pas ses vertus n'a pas de personnalité morale. De temps en temps, il agira bien, ça c'est très bien, mais il n'agira pas d'une manière continue. Alors il y aura des acquis. Il sera dépendant de la bonne humeur du jour. Alors il y aura des jours où il sera magnifique, il sera extraordinaire, merveilleux. Puis des jours où ça n'ira pas du tout. Vous voyez, la discontinuité dans notre vie morale montre que les vertus n'émergent pas encore assez. On est encore en dessous du niveau de la mer. Alors il y a marée haute et marée basse. Au niveau moral, vous voyez, et il y a des moments où ça va plus ou moins bien. Tandis qu'un homme vertueux maintient la durée, la continuité. C'est pour ça que dans la vie commune, on voit tout de suite. On voit tout de suite quand la vertu pousse. Et on voit quand la vertu a de la peine à pousser. C'est encore un tout petit poussin qui est encore besoin des ailes maternelles pour se réchauffer. Tandis qu'il n'a pas encore son envol suffisant. Tandis que quand la vertu est là, il n'y a une autonomie morale. C'est la prudence qui nous donne une autonomie morale. Et qui n'est pas, on n'est pas obligé de suivre quelqu'un. On peut s'orienter. On a suffisamment de force pour s'orienter. Il y en a suffisamment de force pour encaisser les coups. Tandis quand il n'y a pas de vertu, tant que ça réussit, ça va. Mais dès que ça ne réussit plus, on calme. On s'arrête. Et quelquefois, on dégringole. Et c'est toujours dans la lutte qu'on peut voir l'homme vertueux. Quand c'est pas dans la lutte, c'est très très difficile. Dans la réussite, c'est très difficile de distinguer un homme vertueux et un homme qui n'est pas vertueux. Dès qu'il y a la lutte, ça se voit tout de suite. Vous voyez celui qui est entêté et celui qui est vertueux. Très différent. L'entêté, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est pas une vertu d'être entêté. Hein. C'est une étroitesse d'intelligence. Et donc c'est une caricature de la prudence. Et c'est intéressant quand on voit les vertus de voir les caricatures. Hein? Parce qu'alors les caricatures, on les comprend tout de suite, c'est évident. Hein? On les voit tout de suite. Les vertus, c'est beaucoup plus difficile à saisir, parce que c'est saisi de l'intérieur. Les caricatures ont ce privilège d'être saisi de l'extérieur. Il suffit d'avoir un tout petit peu de sens des choses, on voit tout de suite. Eh bien, la caricature de la prudence, c'est l'entêtement. Il y a des gens entêtés. Ils ont décidé ça. Coûte que coûte, ça ira. Coûte que coûte, ça n'a pas d'importance. On a dit, mais c'est de la bêtise, regardez. Ça n'a pas d'importance. J'ai décidé ça. Alors, ils iront jusqu'au bout. Quitte à se faire fusiller, ça n'a pas d'importance. Et surtout les autres, parce que c'est ce soir, ça va encore à la dernière minute. Mais c'est les autres qu'on entraîne derrière soi. L'entêtement est une caricature de la prudence. On va bien voir ça. Parce que c'est intéressant de voir les caricatures. Et alors c'est quelquefois, vous voyez, la contamination du petit artiste qui est en nous. Parce que la prudence nous fait bien saisir la différence qu'il y a entre l'art et la prudence. L'art a des voies déterminées. L'entêtement a des voies surdéterminées. Tu vois, c'est le déterminisme le plus absolu qui soit, et ça doit aller comme ça. Puisque j'ai décidé, ça doit aller comme ça. Alors j'ai mon projet, ça doit aller comme ça. L'homme prudent, c'est un homme qui a suffisamment de recul pour savoir que les déterminations se prennent progressivement à travers tous les moments de notre vie. Ce ne sont pas des voies déterminées. La prudence n'a pas de voie déterminée. Même si on a une grande expérience, l'homme prudent refait tout le temps sa voie. Il redécouvre ça successivement. Ça, c'est la caractéristique de l'homme prudent. Alors que la caractéristique de l'entêté, de l'artiste entêté, l'artiste qui regarde avant tout l'efficacité, l'homme prudent regarde avant tout la finalité. Et il veut réaliser une œuvre humaine. Tandis que l'artiste veut avant tout réaliser une œuvre qui chante sa gloire. Alors il ne le dira pas ça, hein, mais qui chante sa gloire. Une œuvre qui soit quelque chose de grand, de beau, de noble, d'enivrant. Il réalise une œuvre, il veut réaliser une œuvre. L'homme prudent est soucieux des hommes qu'il a engagés et du bien de ces hommes, du progrès de ces hommes au point de vue intérieur. C'est ça qu'il regarde en premier lieu. L'œuvre, c'est second. Il sait que c'est nécessaire, surtout quand il s'agit d'un aspect communautaire. Dans tout aspect communautaire, il y a un aspect artistique qui est nécessaire. Il faut une efficacité. Une communauté ne peut exister que quand il y a une certaine efficacité. Quand il n'y a plus d'efficacité, on a le ronron, hein, du chat auprès du feu, et alors ça devient mortel. Il manque d'efficacité. Il faut qu'il y ait l'efficacité qui renouvelle. Mais quand il n'y a que l'efficacité, alors à ce moment-là, ça tue la personne humaine dans sa finalité. Alors on a des robots. On n'a plus des hommes. On n'a plus des hommes qui coopèrent. La coopération implique justement ce point de vue prudentiel. On va essayer de comprendre ça, parce que c'est sûrement un des grands aspects, vous voyez, les deux cours vont être en parallèle, c'est, à ce point de vue-là c'est très bien, le cours sur la prudence et le cours sur l'art. Hein. Parce que, immédiatement après, philosophie de l'art, c'est le point de vue de l'art. Alors c'est très important d'avoir les deux en parallèle, parce que les deux s'éclairent mutuellement. Alors qu'est-ce que c'est que la prudence? C'est un tel à votre expérience. Qu'est-ce que c'est que la prudence? On va tout de suite. Cet appel à tous les actes imprudents que vous avez commis dans votre vie. Ils sont légions. Les actes imprudents. On a été trop vite. On a été trop vite. On s'est précipité à toute vitesse. Puis on n'a pas vu des obstacles, on n'a pas vu des difficultés. Alors on s'est usé à toute vitesse. L'imprudence par rapport à sa santé, par exemple. On a tous commis des imprudences par rapport à notre santé. C'est bien évident. Alors on a brûlé la chandelle de nos copains. Vous savez ce que ça fait? Au bout d'un certain temps, quand les deux bouts se rejoignent, hein, il ne reste plus grand-chose. Alors, et ça, c'est imprudent. On doit être prudent par rapport à sa santé. Parce que notre corps, il est l'allié de notre âme. Et notre corps doit servir notre âme spirituelle. Mon frère, et on voit très bien, bien quand vous êtes trop fatigué par imprudence, vous avez envie de dormir, hein? Et intellectuellement, vous piquez trois petits sommes tous les quarts d'heure. Hein? Alors, c'est pas à pouvoir maintenir un éveil de l'intelligence pour suivre un cours de philosophie. C'est un manque de prudence quand même. Hein? Alors, comprenons bien, quelquefois on ne peut pas faire autrement. On est acculé à ça, en temps de guerre. C'est bien évident, c'est ce qu'on fait. Et on continue de marcher, même en dormant. C'est plus difficile d'être intelligent même en dormant et de suivre le cours de métaphysique même en dormant. Je ne crois pas qu'on enregistre grand-chose à ce moment-là. Mais c'est très vrai, c'est des imprudences par rapport à sa santé. On doit être prudent. On doit être prudent, pas seulement ça. Je prends là l'exemple très simple, parce que c'est peut-être là où on saisit mieux nos imprudences. Parce qu'on a immédiatement la répercussion. On a commis des imprudences aussi par rapport à nos relations fraternelles. On a pu blesser quelqu'un. On a été imprudent. On a dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire. Parce qu'on savait qu'il était particulièrement vulnérable. On a été imprudent, je ne sais pas, dans le sens de payer ses impôts. Ça peut arriver, ça aussi. Il peut y avoir des imprudences, là. Des imprudences, parce qu'on dit quand même, il faut faire un petit peu attention. On sait très bien que si on fait telle ou telle chose, ça va se répéter. Des tas d'imprudences comme ça. Quand on vit avec quelqu'un dans une vie commune, eh bien la prudence se joue constamment. Il faut être intelligent dans nos rapports avec nos frères. Il faut être intelligent dans l'ordre de l'obéissance. Il faut être intelligent pour obéir. L'obéissance ne supprime pas l'intelligence, loin de là. Alors ça, c'est la prudence qu'il faut essayer de saisir. Alors on va essayer de comprendre un tout petit peu ce qu'est la prudence. Je vous renvoie, pour ceux qui ont eu le temps, au traité de saint Thomas, une chose qu'il faut avoir lue dans sa vie. Je ne vous demande pas nécessairement de lire maintenant, mais ce serait très bien, la prima seconde, la seconda seconde, question 47 à 56. Question 47 à 56. C'est un bon petit traité. Hein. C'est pas terrible à lire, mais c'est pas terrible à lire. C'est un très bon petit traité. On a des chances ensemble, parce que ça vaut la peine. Hein. Imprudence, il ne faut pas lire ça une fois dans sa vie. Il faut la lire maintenant, au début. Parce que c'est bon, vous voyez, la prudence, c'est chose de capital pour nous, la sagesse pratique. C'est quand même quelque chose, hein. Et ça nous éclaire. Alors, c'est un traité de théologie, hein, ne oubliez pas. Ce que nous allons voir, c'est le point de vue philosophique. Alors, le point de vue philosophique, c'est évidemment Aristote qui est le premier à parler de la prudence. Pas Aristote. Platon a parlé de la prudence, sa phronésie chez Platon, ça joue un très grand rôle. D'une certaine manière, on peut dire que le traité des vertus cardinales, c'est l'œcuménisme philosophique. Parce que tous les philosophes ont accepté, sauf ces 40 dernières années. Là où on voit des tremblements apocalyptiques. Parce que les 40 dernières années, on ne parle plus des vertus cardinales. Cherchez dans Sartre les vertus cardinales. Hein. C'est vrai. Alors que chez tous les autres philosophes, peu importe quelle école on a, même les épicuriens, il y a la prudence, il y a une prudence d'Épicure. Tandis que depuis les 40 dernières années, on a l'impression que c'est volatilisé. C'est un signe d'étang, vous voyez, c'est très significatif, ça. De ne plus regarder l'homme en comprenant que l'homme peut se perfectionner, peut s'ennoblir par les vertus et l'acquisition des vertus. Et l'acquisition des vertus cardinales représente, vous voyez, la manière dont on va rendre le terrain salubre. Les quatre vertus, mais spécialement la vertu de prudence. Si vous n'avez pas l'acquisition de ces quatre vertus, il faut commencer par la prudence. C'est la clé. C'est la clé des vertus cardinales. Et donc c'est important. C'est pour ça que je commence par la vertu de prudence. Parce que c'est vraiment ça. Nous allons le voir. Alors, regardons d'abord. La vertu de prudence va venir ennoblir notre intelligence pratique. Notre intelligence pratique, Alors comprenons bien ce que c'est que l'intelligence pratique, autrement on ne comprendra pas du tout. L'intelligence pratique se distingue du nous, donc de l'intelligence dite spéculative. Vous voyez que c'est une vieille distinction qu'Aristote fait face à Platon, parce que Platon ne faisait pas cette distinction. La dialectique de Platon ne pouvait pas faire cette distinction entre le nous spéculatif et le nous pratique. Aristote a fait cette distinction. Cette distinction disparaît avec les idéologies modernes. Disparaît dans la dialectique hégélienne, ça disparaît dans le marxisme, ça disparaît dans toutes les idéologies modernes. Et je crois que la disparition de cette distinction fait que fatalement, on ne peut plus comprendre ce qu'est la prudence. Alors on va confondre prudence et sagesse, si on veut encore parler de vertu, mais on ne comprendra pas ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à la prudence. Donc il faut d'abord se rappeler cela. Ça c'est une note marginale, hein, qu'il faut nécessaire. Distinction d'intellect spéculatif et d'intellect pratique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'intellect spéculatif recherche la vérité. On recherche la connaissance pour la connaissance. C'est ça le propre de l'intelligence proprement spéculative. On recherche l'intelligence, la connaissance pour la connaissance. La connaissance parfaite qui est la vérité. Donc je fais autre chose. Connaître la vérité, c'est suffisant. Dans l'intellect, dans l'intelligence pratique, au contraire, on essaie de trouver l'action. On recherche la vérité pour avoir une action bonne. On recherche une action bonne. Une action conforme à la fin. C'est ça le propre de l'intellect pratique. On voit les différentes manières d'atteindre sa fin. Et on choisit telle ou telle opération qui est en vue de la fin. C'est ça le propre de l'intellect pratique. C'est la rectification profonde de mon opération. De mon opération humaine, de mon opération volontaire, de mon affectivité sensible, de mes passions. Une rectification en vue de la fin, pour que je puisse atteindre avec plus de certitude, avec une plénitude plus grande, je puisse atteindre ma fin. Donc cette intelligence, cette lucidité, qui présuppose la volonté. L'intellect pratique présuppose la volonté. Pourquoi? Parce que c'est la volonté qui me permet d'atteindre ma fin. Alors, l'intellect pratique présuppose justement la volonté, c'est donc une connaissance affective, c'est une connaissance qui présuppose l'amour, c'est une connaissance à l'intérieur de l'amour, c'est une lucidité dans l'amour, voilà ce que c'est que l'intelligence pratique. Alors, c'est plus ou moins affectif, ça dépend des moments du développement de la connaissance affective, mais c'est toujours une connaissance affective. Ça n'a pas du tout la même objectivité, vous voyez. Pour l'intellect spéculatif, l'objectivité, c'est de rejoindre la réalité. Pour l'intellect pratique, l'objectivité, c'est d'être conforme à l'intention de sa vie. Très différent. Quelqu'un qui est conforme à l'intention profonde de sa vie, celui-là, il est vrai pratiquement. Tandis que la vérité spéculative, c'est par rapport à la réalité du temps. La réalité autre que moi. Ou la réalité de moi-même en tant que c'est mon corps. Quoi. En tant que c'est autre chose que mon intelligence, autre chose que mon nous. Alors c'est la rectification par rapport à la réalité du temps. Tandis qu'au contraire, le point de vue de l'intellect pratique, c'est à l'intérieur de l'intention, la rectification de toutes mes activités en fonction de l'intention, de mon intention de vie. Cette intention de vie, elle est atteinte par la volonté et par l'intelligence de cette volonté. Cette intelligence à l'intérieur de la volonté. Je suis donc, par l'intelligence pratique, je suis toujours engagé. Mon intellect spéculatif ne m'engage pas dans l'action. C'est vrai, j'ai suffisamment de recul. Et c'est nécessaire d'avoir du recul pour être dans l'intelligence spéculative. Si j'ai pas de recul, c'est pas possible, pas rien. Tandis qu'au contraire, la rectification de l'intelligence pratique se fait sur le terrain, se fait dans l'engagement même. Je suis engagé moi-même à telle, j'ai choisi telle fin, j'ai choisi tel but dans ma vie, eh bien je suis entièrement engagé dedans. Et j'essaie d'avoir cette lucidité par rapport à toutes les actions que je peux faire en vue de cette fin. Donc, je suis engagé dans l'intellect pratique. Je crois que c'est ça qui est le plus à noter pour nous. C'est que l'intellect pratique se développe à l'intérieur d'un engagement. Alors que l'intellect spéculatif se développe dans un recul, dans un dépassement par rapport à un engagement immédiat. Je peux m'être engagé, mais je ne suis pas engagé immédiatement. Et je prends suffisamment de recul pour pouvoir justement mieux saisir et mieux comprendre. Il faut saisir par le fait même que cet intellect pratique a besoin d'une détermination interne, puisque l'intelligence, par nature, est tabula rasa, elle reste donc indéterminée, elle a besoin d'être déterminée en fonction de sa fin. Et c'est en fonction de sa fin que mon intelligence pratique va se déterminer de plus en plus. Alors, quelles sont les grandes activités qui me font comprendre ce que c'est que la prudence? Autrement dit, quels sont les actes où l'intellect pratique qui va être ennobli par la prudence, ennobli par cet excis particulier, va pouvoir se manifester, se montrer? Je crois que la première activité la plus nette que nous pouvons comprendre pour le point de vue de la prudence, c'est le conseil. On est tous d'accord qu'un homme prudent est capable de donner de bons conseils. Et c'est à un homme prudent qu'on ira demander de bons conseils. C'est à un homme prudent qu'on demande cette information nécessaire à toute action. Vous voyez, c'est là où on voit très bien que, comme dans un intellect pratique, il y a encore le fait de l'intelligence. L'intelligence demande toujours de prendre un peu de recul. Or, pour donner conseil à quelqu'un, il faut prendre un peu de recul. Quand vous êtes acculé devant des choses immédiates, à cause du feu de l'activité, on est pris par ça, on peut pas, on n'a plus le temps de penser, du reste, c'est ce qu'on dira. On n'a plus le temps de penser, on n'a plus le temps de réfléchir, on est pris, une affaire après une affaire, et ainsi de suite. Alors à ce moment-là, on commet fatalement des actes imprudents. Pas possible autrement. Pendant un certain temps, il y a un acquis, alors ça va à peu près, mais au bout d'un certain temps, c'est fini l'acquis. Alors à ce moment-là, il y a des actes imprudents. Signal d'alarme. On s'aperçoit que, de fait, on a perdu du temps bêtement. On a fait une chose inutile. Si on avait tout simplement réfléchi 5 minutes de plus, on l'aurait pas fait. Alors on voit qu'on perd du temps. Alors pour quelqu'un qui est engagé, perdre du temps, c'est la dernière des choses. Hein. C'est la chose la plus terrible et la plus humiliante. Quand on voit qu'on a perdu du temps. Alors on est obligé de recommencer, de reprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce recul suffisant de demander conseil. C'est une phase absolument nécessaire au point de vue de la prudence. Demander conseil à quelqu'un de compétent et prendre conseil de soi-même. C'est-à-dire s'arrêter. Avoir le courage de s'arrêter. Et c'est vrai, il faut avoir le courage de s'arrêter pour prendre un peu de recul. C'est ça le point de vue de l'intelligence. L'intelligence demande du recul, vous voyez. L'intelligence n'aime pas de coller directement sur la réalité. Mais des gens qui n'aiment pas d'être comme touchés. Ils veulent être comme l'œil. C'est vrai. Mais des gens, c'est comme l'œil. L'œil, il faut de la distance pour voir. Et alors, l'intellect pratique demande cette distance. Et on crée cette distance. On peut la réaliser. On peut prendre du recul. On peut s'arrêter. Ça, c'est l'exigence première de la prudence. On prend suffisamment de recul pour voir. Ce qui est capable d'être fait, les diverses possibilités. Alors vous voyez que là, la prudence va permettre un développement d'intelligence pour prendre suffisamment de recul pour mieux voir tous les moyens, pour mieux voir toutes les techniques, pour mieux voir toutes les méthodes. Je vois tout cela dans le conseil. Et surtout, de demander conseil à un autre. Quand on est trop précipité, on ne peut plus demander conseil. Et quand on ne veut plus demander conseil, c'est une imprudence. C'est une imprudence quand on... Il y a des fois, on peut demander conseil à personne, hein, ça n'est sûr. Alors, ce n'est pas une imprudence. C'est pas dire que vous devez nécessairement demander conseil à tout le monde. Il y a quelquefois des activités qu'on doit faire où on sait très bien pertinemment qu'on peut demander conseil à personne. Ou peut-être à une seule personne. Ça va arriver. Alors si on peut la rencontrer, on la rencontre. Et si on ne peut pas la rencontrer, on demande au Saint-Esprit d'y supplier. Mais ça, c'est la seule chose qu'on fait. Et humainement, on réfléchit encore plus. Il y a les deux, la prudence, hein. C'est prendre ce recul pour saisir bien tous les moyens, et puis demander conseil. Vous voyez que, ici, hein, je dois lutter contre la précipitation de l'imaginaire. L'imaginaire nous met dans un état de fébrilité. Quand l'imaginaire est lié à la passion. Et donc nous empêche d'avoir suffisamment de recul. Et n'ayant pas suffisamment de recul, alors on se précipite. Lui, c'est le lièvre traqué. Alors il se jette sur l'obstacle et en chouant. On regarde, on ne voit plus, on ne voit plus rien du tout. Du reste, c'est très curieux. On a comme une intelligence complètement inhibée, complètement. Qui ne voit plus. Alors il n'y a plus qu'un seul moyen qu'on voit, on ne voit plus que ça. Et ça revient comme une espèce de répétition imaginative. C'est toujours ce moyen qui revient. Parce qu'on n'en voit plus qu'un. On n'a pas pris assez de recul. Alors on est en face de quelque chose qui s'impose bêtement. Ça s'impose bêtement, on n'a pas assez pris de recul, on a cru qu'avec ça. Alors on s'est précipité là-dessus. Deux siècles, c'était oui, on s'y reconnaît. C'est évident, ça. On a tous fait cette expérience d'une précipitation fébrile. Le lièvre qui est sous la nuit prise sous le point de vue du feu, du phare, hein, c'est extraordinaire. Quand on voit courir, et puis tout d'un coup il se retourne et puis se précipite, ça y est, c'est fini. C'est exactement ça. Hein. Alors il a perdu le contrôle de son instinct. Nous, on perd le contrôle de l'acte prudentiel et on se laisse prendre par quelque chose, parce que ça peut très bien arriver, car il y a toujours des veilleurs qui ne sont pas indulgents et qui sont là pour nous faire croire que les propagandes qui sont là, alors qu'ils illuminent tel moyen, et puis c'est tout, il n'y a que ce moyen-là qui est bon, il n'y a que celui-là. Deuxième moment, c'est le choix. Et on retrouve les actes humains repris par le point de vue prudentiel. La prudence nous donne le conseil. Et la prudence nous permet de bien choisir. Alors vous allez dire, ah, le choix c'est un acte de la volonté. Oui, oui, c'est un acte de la volonté, c'est très vrai. Mais le choix présuppose l'intelligence. Et pour choisir bien, il faut la prudence. C'est-à-dire, il faut que je comprenne exactement la qualité des moyens qui me sont présentés. C'est ça que fera la prudence. La prudence a quelque chose de critique par rapport aux moyens. Elle comprend
les moyens qui sont le plus immédiatement proches de la fin et les moyens qui sont le plus immédiatement proches de ma sensibilité. Autrement dit, les moyens plus difficiles qui exigent de moi un effort, mais qui sont plus proches de la fin. Et les moyens qui sont plus faciles, plus proches de ma sensibilité, de mon affectivité, et qui sont plus loin de la fin. Ça, c'est l'homme prudent qui fait cette critique. Alors, il saura à ce moment-là choisir, en connaissance de cause, il choisira, s'il sent qu'il est suffisamment fort, le moyen le plus adapté à sa fin. Je suis en pleine santé, je peux le faire, allons-y. Au contraire, il dira non, actuellement non, je suis trop faible, ça ne va pas. Alors il choisira un moyen qui sera plus proche de sa sensibilité, plus lointain pour la fidélité. Mais je ne choisis pas toujours le même moyen. Je ne dis pas, comme certains disent, à partir d'une certaine attitude stoïcienne, il faut toujours choisir le moyen le plus difficile. Ce n'est pas prudent de dire ça. C'est pas prudent. Je ne peux pas dire ça au point de vue de la prudence. Quelquefois je choisis le moyen le plus facile, quelquefois je choisis le moyen le plus difficile. Oui. Celui qui dit, la vie religieuse, c'est le moyen le plus difficile, donc je le prends. Attention, vous allez vous casser la tête. Alors, à la place de vraiment vous approcher plus de votre femme, non, vous faites quelque chose. Pour vous, c'est pas bon. Pour vous, étant donné ce que vous êtes, c'est pas bon. C'est pas un moyen qui est vraiment celui qui va vous donner le véritable épanouissement de votre cœur et de votre intelligence. C'est pas bon. C'est pas bon pour tout le monde. Alors ça, c'est la prudence qui est vers ça. Et c'est vrai, la prudence fait choisir exactement le moyen. C'est la même chose pour l'homme de l'amitié. Dans l'amitié, c'est la prudence qui fait comprendre que tel ami est bon pour ce moment et que tel autre ami n'est pas bon. Il risque d'être un poids à la place de m'aider. C'est pas bon pour moi, c'est peut-être bon pour lui. Alors là, autre chose interviendra à un autre point de vue. Mais je vois la difficulté et je vois la signification de ces difficultés. Donc, le choix. Un homme prudent, c'est celui qui sait choisir à bon escient au bon moment. Ça, c'est très important. Au bon moment. Le moment, hic et nunc.